chip et mon OG, une lame sous la caoutchouc. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs de cette émission mensuelle de La Libre Pensée. Merci aux animateurs de Article 25 qui prêtent cette plage. Sont au micro, pour La Libre Pensée, Claudette Coudeville, Michel Garin, Henri Huile et moi, Michel Cadouche. Vous avez pu lire dans la presse régionale des échos sur des problèmes liés à la laïcité dans les écoles de Marignane. Nous avons demandé aux représentantes du collectif des parents citoyens et solidaires de Marignane, Sonia et Sabrina, de venir expliquer ici de quoi il s'agit. Si nous avons le temps, nous aborderons aussi un autre sujet, l'entrée de Isaac et Mélinée Manouchian au Panthéon. Claudette, à toi.
Oui, bonjour. Donc Sabrina et Sonia, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Et à côté de moi est venue
Sabrina, bonjour, merci de nous recevoir. Je suis membre du collectif, comme Sonia l'a indiqué, et présidente de parents sur l'école de Marignane.
Très bien, je vous remercie. Alors donc, comme l'a très brièvement dit Michel Cadouche, la presse a rapporté ces derniers temps des problèmes qui sont liés aux cantines scolaires à Marignane suite à des injonctions du maire au nom de la laïcité. Et parallèlement à cela, on parle aussi d'un projet du maire d'imposer aux élèves le port de l'uniforme, de même que le salut au drapeau, toujours au nom de la laïcité. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur ces situations ?
Alors justement, le collectif est né par rapport à tout ce que le maire de Marignane prône au nom de la laïcité et qui rentre surtout à travers nos écoles, les écoles de nos enfants. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que monsieur le maire avait déjà commencé sa polémique avec l'histoire des cantines dans les écoles, ce qui a fait une polémique nationale. Donc vous l'expliquez aux Françaises et aux Françaises qui souhaitaient retirer les viandes, que les personnes, excusez-moi, de connotation musulmane souhaitaient avoir de la viande halal dans les écoles, ce qui est totalement faux. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que monsieur le maire a demandé à ce que les viandes soient posées dans les assiettes et sur les aliments. Et une maman qui était de confession chrétienne était outrée parce qu'elle avait pour habitude que son enfant mange le poisson le vendredi, ce qui l'a mis dans une situation où elle était obligée de quitter son travail entre midi et deux pour retirer son enfant de la cantine. Donc cette maman a écrit un courrier auprès de la mairie pour expliquer qu'elle ne comprenait pas cette décision, puisqu'elle a été faite sans consultation auprès des parents d'élèves, et notamment il y a des commissions menus cantines qui sont tenues dans les écoles, et elle ne comprenait pas cette décision. Donc on a estimé qu'il a cherché à faire le buzz. Donc à ce moment-là, donc BFM et d'autres journaux nationaux ont demandé au maire de s'expliquer là-dessus. Et il a expliqué que c'était les parents de confession musulmane qui souhaitaient avoir de la viande halal, chose qui est totalement fausse, sous couvert de la laïcité, et qu'il faisait ça pour expliquer qu'ici on était en France et que sous couvert de la laïcité, les enfants avaient le droit de manger et qu'il avait décidé de mettre des viandes tous les jours dans les cantines, sauf une fois par semaine pour la loi Egalim, où c'était un repas qui est végétarien. Voilà. Donc, de là, la colère des parents est montée, puisqu'il y a une sorte de prise d'otage. Et ça a braqué sur les parents qui sont encore de confession musulmane, qui ne comprenaient pas pourquoi encore il y avait une polémique là-dessus, et sous couvert encore de la laïcité. Donc, Sabrina pourrait expliquer un petit peu mieux.
Exactement.
Ce qu'elle a vécu.
Mais j'ai plusieurs mamans, j'ai eu au retour de plusieurs mamans. J'ai eu le retour de plusieurs mamans dont le problème a été énuméré, dont cette maman, justement, chrétienne, qui n'est pas de confession musulmane. Et c'est vrai que sur le problème de la cantine, il y a beaucoup de mamans qui ont dû retirer leurs enfants de la cantine parce que cette problématique, elle a pris beaucoup d'ampleur. Donc, on a milité pendant un laps de temps avec les autres mamans qui font partie de l'école. Et j'ai pas de mots à poser sur cette situation.
En fait, il faut savoir qu'il y a 26 écoles. Voilà, il y a 26 écoles sur Marignane.
Voilà.
Et dans ces 26 écoles, donc tous les parents ont estimé qu'ils avaient quelque chose à dire. Une pétition a été faite. Sauf que cette pétition, elle est sortie de son contexte, car il y a des choses qui ont été incomprises. Donc, ça a fait un combat politique où les parents sont des citoyens, ils ne sont pas forcément politisés, ils ne souhaitent pas l'être, ils ne seront pas. Donc, on a accusé les parents de faire de la politique. C'est pour ça que lorsqu'on a créé le collectif, nous avons fait un hashtag « Pas de politique dans les écoles ». Parce que j'estime que lorsque on s'occupe de problèmes politiques, ben forcément, ça fait partie du quotidien tous les jours. Et que lorsque ça atteint les enfants, que ce soit par le biais de l'alimentation, par le biais de leur éducation, par le biais de leur devenir, on construit le citoyen de demain, ça se fabrique dans les écoles de la République. Et qu'on ne peut pas accuser les parents de ne plus avoir le rôle de parents, mais d'être des politiciens, chose qui est totalement fausse. Et sortir ça sous couvert de la laïcité, parce qu'un politicien qui sort qui sort le drapeau laïcité quand ça l'arrange et dès que des parents prennent laïcité, on leur accuse de faire de la politique. C'est ce qui se passe actuellement. C'est complètement loufoque, en fait. On ne comprend pas. Et on veut l'exprimer parce que ce qui se passe à Marignane se passe de partout. C'est une problématique qui se propage, qui est nationale. D'autres parents ont peur de parler parce qu'il y a des répercussions. D'autres disent ça va passer. Mais alors, les parents ont lâché prise au bout d'un moment. Sauf que à Marignane encore est revenue l'histoire justement que vous avez évoquée de l'uniforme. Donc l'uniforme dans les écoles et de la levée du drapeau. Personnellement, les parents n'ont pas été forcément contre. Ça, je pense que c'est une question qui doit être posée, évoquée à titre national et notamment au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui a vexé le maire de Marignane, c'est surtout qu'il avait proposé, il avait fait cette proposition il y a 4 ans ou 5 ans en arrière, lorsqu'il avait fait la polémique sur les langues arabes dans les écoles. Il faut savoir aussi que les langues arabes, latines, les langues mortes, les langues chinoises, voilà, toutes les langues font partie, on peut prendre en option dans les écoles primaires. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais de bien beaucoup plus. Donc je ne sais pas pourquoi il a joué là-dessus. Et il a expliqué qu'il ne fallait pas avoir de langue arabe parce que les personnes pouvaient apprendre le terrorisme, en fait, il avait sorti comme terme. Voilà, l'extrémisme terrorisme. Ce qui est encore fallacieux et en plus c'est gênant. Nous, on est gênés pour lui, hein, je tiens à le préciser. Donc là où il n'a pas été content, c'est que comme il avait sorti cette histoire, ben, en fait, il n'a pas été sélectionné comme ville test, forcément. Donc il s'est senti heurté par cette décision où il explique qu'il avait prôné justement l'uniforme dans les écoles et qu'il n'a pas été choisi par l'éducation nationale lorsque M. Gabriel Attal était ministre comme ville test. Voilà. Donc voilà pourquoi la polémique est repartie, notamment dans la ville de Marignane.
Sachant qu'à une période, il faut le savoir, hein, il faut que tout le monde le sache, la langue arabe, des cours de langue arabe étaient donnés dans certaines écoles sur Marignane. Et il a mis un stop à ce processus, qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient contentes d'y assister, d'y participer. Et c'est vrai qu'du jour au lendemain, couper toute une organisation, un programme, un processus, ça a créé beaucoup de frustration. Bon, après, ça, c'est des sujets parmi tant d'autres, parce qu'il y a beaucoup de problématiques sur la ville de Marignane, notamment à cause du maire. Mais la cantine, ces derniers temps, ça a fait une grosse, grosse, grosse polémique.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, à la cantine, dans toutes les écoles de Marignane, dans les cantines, il n'y a qu'un seul menu imposé à tous les enfants.
Exactement.
Et si et est-ce que suite aux différents articles de presse, etc., il y a eu une modification de la situation ou pas du tout?
Alors absolument pas. Il faut le savoir que le maire de Marignane refuse totalement et catégoriquement de proposer un menu de substitution au menu. Donc le jour où il y a de la viande, il y a de la viande. Si l'enfant la mange, tant mieux. Il ne la mange pas, ben, tant mieux aussi. Il n'y a pas de menu de substitution.
Le problème, c'est que c'est surtout que la viande est servie dans les assiettes. Mais elle est servie sur les autres aliments. Normalement, dans une assiette, la composition doit faire que la viande doit être à part, les légumes doivent être à part, compartimentés. Là, il a fait une note de service en interne où il a demandé, ah ben, après, il s'est rétracté, mais la note de service est sortie, où la viande était mise sur les aliments. Lorsque des enfants ont demandé à ce que la viande soit retirée, pour multiples raisons, ne serait-ce que religieuse, vegan, pour ceux qui le sont, exactement, ou parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas la viande dans la cantine, il ne faut pas oublier que ce n'est pas de la viande de premier choix, hein, donc c'est du surgelé, donc il y a des enfants qui préfèrent manger de la viande chez eux. Et on essaie de rappeler aussi aux mairies que la cantine, c'est un service pour les parents, parce qu'on est dans une thématique aussi où les parents travaillent tous les deux. On ne peut pas se permettre maintenant, comme avant, d'aller chercher nos enfants à l'école, parce qu'avec la crise économique, tout le monde travaille. Donc forcément, il y a deux côtés. Il y a ceux qui travaillent et qui ont besoin de laisser leurs enfants à la cantine. Il y a des familles qui sont précaires et qui font manger leurs enfants à la cantine pour être sûr qu'ils ont un repas. À la base, c'est ça le concept. Donc maintenant, ça met des parents qui sont en difficulté. On essaie d'expliquer aux mairies qu'il ne faut pas s'inquiéter, nos enfants mangent le soir, le mercredi notamment, pendant les vacances et le samedi, dimanche. Donc cette obsession cette obsession de faire croire qu'on veut donner le meilleur à nos enfants et que ça se passe lors de la cantine, elle n'a pas lieu en fait. Donc ce qu'on demande, c'est que nos enfants puissent être alimentés et afin de pouvoir continuer leur cours l'après-midi. Et le soir, nous, on s'occupe de leur éducation alimentaire. On n'a pas besoin que ce soit les mairies qui s'occupent d'éducation alimentaire. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'ils soient nourris. Alors des fois, proposer des plats, il faudrait voir le gaspillage alimentaire, hein, il est énorme. Il est énorme. Non seulement il y a le gaspillage alimentaire, c'est pas écolo, ça jette beaucoup de choses. Dès que si un enfant ne touche pas des yaourts qui finissent à la poubelle, il faudrait. Moi, je pense qu'il y avait multiples solutions. On peut faire des partenariats avec des EHPAD, avec des associations pour les SDF, des associations pour les sans-abri, et donner cette nourriture, des tonnes qui vont à la poubelle. On vous dit non par rapport à un service d'hygiène, parce que vous pensez qu'un SDF, quand il va dans la poubelle, il regarde l'hygiène ? Vous pensez qu'il y a plus de risques de récupérer tout ce qui n'a pas été mangé dans les écoles, dans les services publics ? Donc tout ça, on ne comprend pas. Alors on nous dit encore de faire de la politique. Non, on ne fait pas de la politique, on fait de la logique. On fait de l'humain. Donc, et ça, on doit l'apprendre à nos enfants, parce qu'on nous demande, on nous bassine par les publicités, par à répétition, par le gouvernement, de nous éduquer chez nous. Mais dans un lieu public, on ne le fait pas. C'est quand même... on va où ? On est en 2024, je ne comprends pas comment on a fait pour régresser. Et si on a le malheur d'ouvrir la bouche, parce qu'on est dans une logique, je pense, humaniste, et dans une logique avec... L'école, c'est le partage. Et en tant que parent, mais avant d'être parent, on a été écolier aussi, que je sache. On n'est pas dans une génération où on arrive dans les années 70 et où il y avait l'école que des garçons. Et là, il y avait un conflit intergénérationnel. On est en 2024, donc c'est une génération XY. Ça fait un flashback dans notre jeunesse. On ne peut pas la faire à l'envers puisqu'on a mangé dans ces cantinas. Avant, il y avait des repas de substitution. On était mélangés, black, blanc, beurre, catholique, athée, chrétien, juif, hindouiste, comme ils disent, chinois, ce que vous voulez. Donc, il y avait toutes les religions, mais on ne faisait pas ça. On était plus dans un esprit social. À l'époque, dans les écoles, on ne demandait pas de quelle origine. On me disait, il fait quoi ton père quand on travaille ? Et on se charriait sur toi, tu es le fils d'un ouvrier, toi, tu es le fils d'un cadre, toi, si. C'était sur le statut social et ce n'était pas méchant. Mais maintenant, dès qu'on arrive, c'est quoi ta religion ? Mais non, mais t'es noir, comment ça se fait que t'es chrétienne ? Ah, il y a un problème. Donc, c'est pas normal que c'est... Mais c'est pas normal, ça s'appelle... Pour moi, c'est du... Avant, ça en finit par du harcèlement, mais tout... il faut tout revoir. Mais quand on regarde l'origine, c'est à cause de certains élus. Et Macron l'a bien dit, on va reprendre sa phrase, où il a dit qu'il ne cautionnerait pas, je ne suis pas macroniste ni pro-Macron, mais je reprends la phrase de Monsieur le Président, qui a dit qu'il ne servirait pas les élus qui veulent faire leur... pour garder leur petite place, en fait. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Tout le monde le voit, mais personne ne dit rien.
Très bien. Et donc, vous avez déjà toutes les deux un peu abordé les actions qui avaient été mises en œuvre, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
D'accord.
Et les suites que vous allez donner, mais ça, on le fera après la chanson.
D'accord, merci.
Oui, on va vous interpréter, enfin, pas vous interpréter, on va vous passer plus exactement une chanson qui est de circonstance, puisqu'on vient de vous parler des problèmes rencontrés par la ville de Marignane. Je vous lance une petite chanson que beaucoup connaissent.
Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de ricoler un bon coup. Je préfère manger à la cantine. Si le beurre c'est de la margarine,
s'il y a des cailloux dans les épinards, je préfère manger au réfectoire. Avec les doigts, c'est défendu de jouer aux billes avec les petits pois. Ce n'est pas marrant d'être à table. À la cantine, on se bagarre avec la confiture. On s'en met plein les mains, plein les habits, plein la figure. Et quand il y en a un qui rouspète, on lui fait manger son assiette. Je préfère manger à la je suis sûr de rigoler à mon coup.
Il préfère manger à la cantine avec ses copains et ses copines.
À la maison, quand il y a un invité à déjeuner, on m'a toujours bien défendu de lui faire des croche-pieds et de l'envoyer sous la table. À la cantine, on est chez nous, c'est notre république. On pousse les tables.
avant la chanson, je vous posais la question quelles sont les suites que vous pensez donner et quelles sont les actions à mettre, que vous, vous comptez mettre en œuvre et les suites à donner donc, à ces actions.
Alors, les actions que, alors on va plutôt faire des actions qui ont été mises en place déjà parce que après l'histoire de la cantine justement, il y a eu des propos de monsieur le maire lors de ses vœux où il a expliqué que Marine Année qui s'inquiétait pour les enseignants et qui voulait les équiper de bombes lacrymogènes. Donc équiper les écoles primaires, en expliquant que certaines personnes à connotation d'origine musulmane ou maghrébine, notamment algérienne, étaient conditionnées pour tuer. Donc il a fait référence à monsieur Samuel Paty, paix à son âme, et donc du coup, pour éviter, il a expliqué que quand il avait revu la vidéo des attentats, et il s'est dit que si ce professeur, parce que je trouve ça quand même déplacé envers la famille, était équipé d'une bombe lacrymogène, il ne serait pas mort. Donc le 18 décembre, monsieur le DICES a fait tourner une note auprès des enseignants d'école primaire et du personnel pour leur dire que des bombes lacrymogènes de 100 ml étaient à leur disposition pour se défendre en cas d'attaque. Nous avons été choqués. Par ces propos, nous avons été choqués de ne pas avoir été informés puisque nous l'avons su lors des vœux le 13 janvier, alors que cette note date du 18 décembre et que nous n'avons pas été informés ni par le rectorat, ni par... Personne ne nous a informés de cette
note de service.
De cette note de service et surtout que certaines... Selon monsieur le DICES, 68 enseignants auraient accepté et seraient équipés d'une bombe lacrymogène. Donc nous avons écrit au rectorat, nous avons écrit au président, nous avons écrit à beaucoup de députés, à tous les députés. Le collectif a été créé justement au mois de janvier par rapport à cette histoire, parce que c'est la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Pour nous, c'est un appel à la haine et on ne comprend pas comment on peut laisser un élu de la République, premier magistrat de la ville, avoir des propos haineux et qui sont basés sur sa propre idéologie. Il faut rappeler que M. le DICES a été élu divers droite depuis 15 ans, sauf qu'il a créé le RPR, donc, qui a été racheté par le RN. C'est associé avec M. Franck Alizio, qui est notre député de circonscription. Et de là, en fait, il donne ses idéologies, mais ce ne sont pas les idéologies d'un maire qui a été élu divers droite, mais ce sont ses idéologies personnelles. Et on ne comprend pas comment ça se fait qu'il n'est pas sanctionné pour des propos haineux. D'autres l'ont été pour moins que cela. Le collectif est né donc au mois de janvier. Nous sommes en thème presque 200 membres en un temps record. Nous avons pu voir, et là c'était le côté magnifique, hein, une solidarité exceptionnelle qui s'est créée avec des enseignants, des citoyens, des parents de tous bords. Donc c'est pour ça que nous avons mis 13, parce que le collectif viendra soutenir tout ce qui est anti-laïque en fait, et que ça touche aux écoles, mais aussi les problèmes de citoyenneté, la laïcité tout court. Nous voulons nous présenter comme bâtisseurs de la paix, parce que c'est ce que nous sommes. Quand on est parents, c'est ce que l'on est. On veut se présenter d'abord comme parents, citoyens, humains, et pas politiques. La politique, ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas de diviser. La politique, ce n'est pas... C'est devenu un gros mot, c'est devenu une insulte, c'est devenu un tabou. Ce mot politique, il a été détourné dans tous les sens. Ce mot politique fait peur. Et comment ça se fait que nous n'avons pas eu des réactions beaucoup plus hautes, notamment de Monsieur le Président, de Monsieur le Préfet? Nous attendons une réponse de sa part. Et surtout, il ne faut pas oublier que les bombes lacrymogènes, ce sont des armes qui sont quand même interdites. Si vous vous baladez avec une bombe lacrymogène, vous êtes sanctionné. Comment ça se fait que des écoles sont équipées? Moi, si monsieur le maire, premier magistrat de la ville, dit récemment, lors de son dernière action sur un journal régional, où il explique que 68 enseignants sont équipés de bombes lacrymogènes, j'attends des réponses, justement, de nos politiques, de nos élus, de ceux qui représentent les citoyens. Il faut arrêter de mettre l'étiquette en avant, et plutôt la fonction, lorsque l'on est élu, il n'y a pas d'étiquette. On représente tous les citoyens. Et donc les actions que l'on va continuer à mener, c'est de dénoncer dans un premier temps, parce que nous ne laisserons plus passer ce genre de discours. Si on laisse passer, on est complice. Si on laisse passer sans rien dire, on refuse la peur, on refuse la doctrine, on refuse tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre ensemble. Ce qu'on veut, c'est qu'on laisse tranquille, qu'on arrête de nous prendre en otage, qu'on arrête de prendre nos enfants en otage, qu'on arrête de faire de polémiques à travers les écoles, qu'on arrête de traumatiser, que les responsabilités elles soient prises en charge directement par les élus qui sont plus hauts pour recadrer les maires de chaque ville. Donc, il faut savoir aussi que nous avons été reçus par le rectorat, par M. Le Dazen, et une note a été faite auprès des écoles pour leur demander de retirer les bombes lacrymogènes et que le rectorat ne cautionnait pas de tels propos. Il ne comprenait pas non plus pourquoi certains enseignants avaient accepté. Donc, en tout cas, en ce qui concerne l'académie et le ministère de l'Éducation, ils ont formellement interdit d'accepter les bombes lacrymogènes. Mais M. Maire persiste à dire que 68 enseignants ont des bombes lacrymogènes et qu'ils passeraient outre les recommandations du rectorat. Je pense que Bouchon, on ne comprend toujours pas pourquoi il n'y a pas, on ne se sent pas... On est solidaires entre nous, entre citoyens, avec des associations, des syndicats, la Ligue Pensée, la Ligue des droits de l'homme... Nous avons des députés qui est de gauche qui ont répondu présent, donc des Bouches-du-Rhône, donc M. Bompard, M. Delogu, qui ont répondu présent. Mais il n'y a pas de suite, ce qui est anormal en fait. Je pense que c'est très grave et il n'y a pas de prise de conscience. Et on nous demande de la fermer, mais on ne la fermera pas. On ne se taira pas.
Très bien. Pour rejoindre ce que dit Sonia, le collectif est là pour une seule et même chose, un seul et même but. On veut la paix, ça c'est l'élément majeur, et le savoir bon vivre ensemble. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est une grosse division pour mieux régner. Et ça suscite beaucoup d'amalgames, de doutes, et ça crée beaucoup de conflits, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Nous, en tant que parents, on inculque une éducation, on inculque de bonnes valeurs, des principes à nos enfants. C'est pas pour arriver dans une école ou dans une ville où ça prône tout le contraire. C'est absolument pas cohérent. Donc on se battra jusqu'au bout pour obtenir ce qu'on veut. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie.
On vous remercie.
Et puis, ben,
je propose... Attends, je... Michel, tu es président du groupe de Libre Pensée de Vitrolles, qui est une ville voisine. Quel est le point de vue que vous défendez?
Puisque tu me parles de ceci, je vais peut-être y répondre directement. Alors, j'avais prévu de passer une chanson, c'est pour ça. Bon, mais ça change un peu, on va s'adapter en fonction des événements, comme on dit. Alors moi, ce que je voudrais apporter comme point de vue, alors c'est vrai que sur la laïcité, vous le savez, on est intervenu, on intervient, on continuera à intervenir, mais ce que l'on vient de discuter, bien sûr, amène à avoir des discussions dans l'avenir, et bien entendu, on va s'y attacher, et d'ailleurs, on a déjà prévu des interventions, que ce soit sur Marignane ou dans les alentours, et on va s'adapter en fonction des événements. Alors tu as parlé vous avez parlé plus exactement des uniformes, mais vous avez parlé plus précisément d'un point qui amène peut-être certaines précisions. Je parle des menus dans les cantines. Alors, il se trouve que dans le menu de la cantine, le menu des cantines de Marignane, ce n'est pas un cas isolé, bien entendu. Hein. Il se trouve qu'en France, la mise en place d'un menu de substitution au sein d'un service de restauration collective n'est ni obligatoire ni interdite. Hein. Aucun principe de valeur constitutionnelle, ni aucun texte législatif ou réglementaire n'impose une cantine la préparation de repas en fonction des sensibilités religieuses ou personnelles. La décision d'en prévoir étant laissée au bon jugement des collectivités compétentes. Alors maintenant, c'est pour ça, hein, je vais parler plutôt législatif. Hein, alors qu'est-ce que c'est qu'un menu de substitution ? Un menu de substitution, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, à propos de d'autres des religions ou par exemple pour des questions un menu de substitution est un menu préparé spécialement pour des personnes ne consommant pas certains produits, hein, pour des raisons personnelles ou religieuses. Hein, hein. Bon, je ne vous apprendrai pas, je ne vais pas aller plus loin sur le menu de constitution. Mais cette question de menu de constitution, de substitution, excusez-moi, vraiment, en ce moment, je suis perturbé. Avec ces trucs. Alors, ce n'est pas nouveau, justement, la commune de Marignane n'est pas la première. Et la question de repas de constitution dans une cantine a été mise il y a quelques années en avant à l'occasion d'une décision du Conseil d'État, appelée à se prononcer sur la légalité d'une délibération du Conseil d'État, du Conseil municipal de Chalon-sur-Saône. Alors, à Chalon-sur-Saône, l'affaire elle commence en mars 2015, lorsque le maire de Chalon-sur-Saône annonce, via un communiqué de presse, vouloir mettre un terme à la pratique installée dans la collectivité depuis 31 ans, qui consistait à proposer un menu de substitution dès lors qu'un plat contenant du porc était servi dans les cantines. Vous voyez, on est proche de ce qui se dessine sur Marignane. Suite à cette annonce, le conseil municipal modifie le règlement intérieur des restaurants scolaires de la commune, et ce, afin qu'il ne soit plus proposé qu'un seul type de repas à l'ensemble des enfants. Cette délibération est prise au motif que le principe de laïcité interdit la prise en considération de prescriptions d'ordre religieux dans le fonctionnement d'un service public. Vous voyez, on est proche de ce que vient de nous dire le collectif. Alors, la Ligue de défense judiciaire des musulmans ainsi que plusieurs particuliers ont attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Dijon, qui l'a annulée par un jugement du 28 août 2017. La Cour administrative d'appel à Lyon a confirmé cette annulation par un arrêt du 28 octobre 2018. La commune de Chalon-sur-Saône s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'État, qui est, vous le savez, je dirais, la voie ultime. Alors, dans ces décisions du 11 décembre 2020, hein, la commune a rendu sa décision. Le Conseil d'État a jugé que les collectivités territoriales gestionnaires d'un service public de restauration collective n'ont aucune obligation de proposer des repas de substitution dès lors que le principe de laïcité, article 1 de la Constitution, interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes relatives à l'organisation d'un service public. Toutefois, le Conseil d'État juge également que ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d'égalité devant les services publics n'interdisent aux collectivités de proposer des menus de substitution. Par conséquent, le Conseil d'État confirme l'annulation de la décision du Conseil municipal de Chalon-sur-Saône qui n'était fondée que sur les principes de laïcité et de neutralité du service public. Comme vous le voyez, on est proche tout à fait de ce qui se passe sur Marignane. Et en d'autres termes, si vous préférez, la mise en place d'un menu de substitution n'est ni obligatoire ni interdite. Alors, quelles sont les relations ? Il y a des relations, justement. Il y a trois principes. Hein, il y a trois points qui sont ici de la loi Egalim. Hein, c'est les principes de la loi Egalim qui définissent ce principe des cantines. Alors, les cantines, au niveau de ces cantines, comme on peut le voir, ce n'est pas, on ne peut pas se retrancher derrière la laïcité pour dire que ce menu, il a été servi, qu'il a été servi obligatoirement avec la viande et les légumes séparés. Parce que quelque part, justement, dans la loi également, il est préconisé que normalement, les plats devraient être séparés, les légumes, des viandes et de tout le reste. Voilà ce qu'on voulait dire au niveau du principe c'est la loi, quoi. Ce que je viens de vous dire, c'était la loi du Conseil d'État. Voilà concernant les cantines. Maintenant, pour le reste, je pense qu'on y reviendra sur le sujet et il sera toujours temps d'en parler et d'agir. Parce que, bien entendu, quand on a rencontré le collectif votre collectif, nous avons décidé également de voir ce qu'il était possible de faire au niveau de la libre pensée, de notre point de vue, quoi. Donc ça, c'est en cours, c'est ce qu'on est en train de voir avec tous les éléments qui sont à notre disposition. Voilà, je vais laisser la parole tout simplement à une chanson, hein, puisque c'est moi qui vais gérer ces fameuses chansons. Je vais vous mettre on va faire passer une chanson parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais vendredi, on sera au moment de la journée de la femme. Et c'est une chanson de Pierre Perret qui, vous le savez, a souvent été très critique vis-à-vis des faits de société. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait des chansons comme La femme grillagée et d'autres. Et celle-là est une des chansons qui, justement, parle des problèmes de la femme et des problèmes de ségrégation également, quoi. Voilà. Et cette chanson s'appelle « Mélangez-vous », tout simplement. Voilà la chanson qui va passer sur l'antenne.
Femme pleine de grâce, quand l'étranger alentour de ta maison passe, noir, blanc, juif ou berbère, laisse ton cœur désigner celui qu'il préfère. Mélangez-vous, mélangez-vous, quand toutes les peaux finiront par se ressembler. Mélangez-vous, mélangez-vous, les hommes sauront même plus sur qui taper. Femme pleine de grâce, ouvrez vos bras aux hommes qu'on dit d'une autre race. Femme, changez la donne, quand tu auras plus qu'une seule couleur, ce sera la bonne. Mélangez-vous, mélangez-vous, comme dans un mot d'amour, les lettres de l'alphabet. Mélangez-vous, mélangez-vous, pour une couleur qui envoie plus personne au gibet. Femme pleine de grâce, à qui la liberté n'accorde aucune place. Va vers celui qui t'aime, même si sur toi les tiens ont jeté l'anathème. Mélangez-vous, mélangez-vous, peut-être qu'un jour il y aura partout la même couleur. Mélangez-vous, mélangez-vous, on ne saura plus qui sont les nôtres, qui sont les leurs. Femmes, soyez fécondes et par des cent mêlées que vos tailles soient rondes. Vos fils seront tous frères, contre personne ils ne partiront plus en guerre. Mélangez-vous, mélangez-vous, c'est de la haine que toutes les femmes vont nous sauver. Par elles que le racisme enfin sera délesté de sa tenace peau de chagrin. Femme pleine de grâce, quand l'étranger alentour de ta maison passe, noir, blanc, juif ou berbère, laisse ton cœur désigner celui qu'il préfère. Mélangez-vous, 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 mélangez-vous,
Oui, donc nous vous remercions, Sabrina et Sonia, de nous avoir informés du combat que vous menez pour défendre la laïcité. Maintenant, j'aimerais que nous abordions un autre sujet d'actualité, également de portée nationale. Emmanuel Macron a récemment panthéonisé Missak et Méliné Manouchian des FTP MOI, francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée. Henri, que penses-tu de cet événement ?
Merci de ta question, Michel. Alors, voilà, ce que je pense de cet événement, c'est la chose suivante. Tout d'abord, il est bien, évidemment, de rendre hommage à des gens qui ont été, il faut le dire, des résistants. Les FTP MOI, c'était, comme l'a dit Michel, les francs-tireurs et partisans, c'est-à-dire c'est une organisation de lutte armée contre l'occupant nazi allemand, et ne l'oublions pas, contre le régime de Vichy, gouvernement français, à la solde et maintenu par les baïonnettes de l'armée nazie. Bon. Et MOI, c'est la main-d'œuvre immigrée, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas français. D'ailleurs, les Allemands ironisaient beaucoup là-dessus, sur terroristes pas français. Terroristes pas français. Alors, ce n'étaient pas des terroristes, c'était des résistants, même s'ils terrorisaient les nazis et les miliciens. Mais la main-d'œuvre immigrée, ça veut dire que c'était des gars qui étaient, ou des femmes qui étaient étrangers. Souvent d'Europe centrale. À l'époque, la grande immigration qu'il y avait en France, c'était principalement d'Europe centrale, disons de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, de Bulgarie, etc. Et c'est d'Arménie, puisqu'il y avait eu le massacre, le génocide des Arméniens en 1915. Et un certain nombre s'étaient réfugiés en France ou, après des périples incroyables, étaient arrivés jusqu'en France. Et ils ont pris les armes. Alors... On dit toujours, dans la chanson, on dit « Français de préférence ». Oui, ils avaient choisi la France contre les nazis, mais ils n'avaient pas choisi la France de Vichy. Ils avaient choisi une France bien particulière, qui était la France de la République, celle des droits de l'homme, celle de la Grande Révolution française, et celle qui, dans sa constitution de 1793, offrait l'accueil aux étrangers et principalement à ceux qui étaient persécutés dans le monde, mais qu'elle refusait l'asile aux tyrans. Et c'est cette France-là qu'ils ont choisie. Mais ce n'était pas simplement, je dirais, une sorte de patriotisme de l'étranger. C'était aussi le fait que ces militants et ces militantes, parce que c'était des militants et des militantes, principalement communistes, étaient des militants engagés dans un combat pacifiste. Et l'époque a voulu que pour la paix, il fallait combattre. Et il fallait combattre par les armes. Et donc il est bien de rendre hommage et... à ces militants, parce qu'ils étaient, bien entendu, plusieurs dizaines en région parisienne, mais pas seulement. Alors après, est-ce que Méliné et Missak Manouchian auraient... en tout cas, Missak Manouchian, puisque Méliné a survécu à la guerre, mais est-ce qu'ils auraient été emballés à l'idée d'être panthéonisés, c'est-à-dire d'être en quelque sorte officialisés, rangés un peu au rang de symboles Le problème des symboles, c'est que c'est pas l'interprétation d'un symbole n'est pas la même par tout le monde. Je vais en donner un exemple. Et est-ce qu'ils auraient vraiment aimé ça ? Personnellement, j'en suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu de ça. Je pense qu'ils n'avaient pas demandé les honneurs, ils n'avaient pas demandé toutes ces choses-là, mais ils avaient demandé ils avaient demandé, notamment Missak Manouchian, dans sa lettre à Méliné, il avait demandé que le combat qui était le sien soit poursuivi par les générations futures. Et je pense que c'était probablement et certainement plus ça, leur engagement. Et c'était en ce sens qu'ils avaient choisi le camp de la France, parce que c'était le pays, comme je l'ai dit, de la Grande Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme, de l'accueil des immigrés, de l'accueil des étrangers en souffrance et du refus de l'accueil des dictateurs. Comme vous le savez, actuellement, nous faisons tout le contraire. Donc, vous le savez. Une chose m'a choqué, ceci étant dit. C'est le fait que le président Macron, puisque c'est de lui dont il s'agit, a décidé de faire porter le cercueil des FTP MOI, de Missak Manouchian, par des légionnaires en képi blanc. Alors on va me dire, oui, mais c'est aussi des étrangers au service de la France. Oui, mais c'est pas bien de la même chose dont on parle, puisque à l'évidence, le képi blanc, c'est le symbole de la colonisation. C'est le symbole, s'il en fut, des guerres coloniales, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. D'ailleurs, cette présence des légionnaires en képi blanc, ça a permis à... j'allais dire une grossièreté, je me retiens. Ça a permis à Madame Marine Le Pen de renchérir et de surenchérir sur la mémoire de son père, qui lui-même était légionnaire. D'ailleurs, qui lui-même était tortionnaire pendant la guerre d'Algérie, comme chacun sait, puisqu'il a pratiqué la torture. Voilà. Et contre d'autres résistants, d'ailleurs. Et donc, c'est plus que très gênant. Et il faut comprendre que c'est pas simplement une de ces fantaisies dont on accuse parfois Macron. On dit, il fait des déclarations d'un coup, où il prend des décisions bizarres autant qu'étranges. Oui, c'est bizarre autant qu'étrange, mais quand même, il y a une continuité. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec l'instauration du service national universel ? C'est-à-dire une tentative de militariser la jeunesse avec un aspect bien particulier, c'est qu'on militarise la jeunesse sur le temps scolaire. C'est-à-dire que le fait de marcher au pas, c'est plus important que d'apprendre l'histoire, la géographie, les maths, le français, l'histoire, et ce qu'on veut. Et cette militarisation, elle se fait d'ailleurs sur le budget de l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui paye. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la question de l'uniforme à l'école ? Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la question du salut au drapeau ? Est-ce que tout ça, c'est pas une politique concertée, planifiée, générale de militarisation de la jeunesse ? Est-ce que, en définitive, de déclaration fantaisiste en déclaration fantaisiste, est-ce qu'il n'y a pas une très grande cohérence avec son discours le dernier en date qui a fait beaucoup parler, sur le fait d'envoyer des troupes au sol, parlons net, participer à la guerre en Ukraine. Et la guerre, qu'est-ce que c'est ? Et je vais lire pour pas me tromper de citation, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. C'est une définition qui a été donnée par un libre penseur il y a bien des années déjà. Et donc, nous pensons à la libre pensée, je vais conclure là-dessus, que d'incohérence en déclaration fantaisiste, en réalité, il y a une profonde cohérence qui est la préparation du passage d'une situation de crise à une situation de guerre, parce que la guerre, c'est une machine à faire des profits. Et ça présente un grand avantage, c'est qu'on pourra faire appel à l'Union nationale et donc au fait qu'il faudra continuer à être soumis à ceux qui gouvernent et à ceux qui possèdent. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Merci.
Donc peut-être une chanson donc de circonstance.
Non. Il nous reste 3 minutes exactement.
C'est pas grave. Donc... je vais quand même vous annoncer que la Libre Pensée organise un banquet républicain des mécréants contre les interdits religieux. Ça rejoint un peu ce qui a été débattu en début d'émission. Comme chaque année, à l'occasion du vendredi dit saint. Pour nous, on le fera le samedi 30 mars à midi à Port-de-Bouc. Prenez donc contact avec un ou une libre penseur, ou encore par email à fédération@lp-13.org. Ensuite, deux livres, La libre pensée dans le monde arabo-musulman, au prix de 12 euros, et aussi Judicité, laïcité et libre pensée, au prix de 16 euros, qui est aussi paru dans la série Arguments, le numéro 24, dossier Allemagne. Il vient d'arriver aussi, les adhérents ont reçu La Raison, qui est le mensuel national, et au sein duquel vous pourrez trouver un article très intéressant sur le Bund, B-U-N-D, qui était une organisation polonaise, russe et je ne me souviens plus du troisième pays, mais Lituanie, qui une organisation révolutionnaire et qui a eu qui a été mise en balance avec la question du sionisme à un moment donné. Mais vous trouverez tout ça dans ce dossier qui était très bien fait dans les pages centrales de La Raison. Donc, voilà. Et je dois remercier à nouveau les représentantes du collectif des parents citoyens et solidaires de Marignane et aussi à Claudette, Henri et Michel. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre-Pensée, www.lp-13.org. Merci encore aussi à Radio Galère, à Daniel et Lucien d'Article 25. Au revoir et rendez-vous dans un mois.